Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Ça fait débat sur Europe 1, les chaleurs extrêmes, la sécheresse et les incendies ravagent le pays. Nombreuses sont les victimes, dont les agriculteurs, secteur déjà très touché par les conséquences de la guerre en Ukraine. Des pénuries sont à prévoir, notamment sur les produits laitiers, mais pas que. Est-ce qu'on pourra pallier au manque dans le pays? Pour en débattre, mes invités, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Franck Ménonville, sénateur UD de la Meuse, Stéphane Travers, député territoire de Progrès de la Manche, ancien ministre de l'Agriculture, et Nicolas Versotti, paysan, administrateur du réseau CIVAM. Nicolas Versotti, expliquez-nous ce que vous vivez depuis quelques mois déjà.
Bonsoir, alors merci pour votre invitation.
Avec plaisir.
Alors, Je prendrai déjà l'initiative pour mettre en perspective en fait la question que vous posez. Et avant d'avenir à un témoignage direct, je dirais qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on vit. Mm. Les difficultés d'approvisionnement de notre pays sont des conséquences qui découlent directement d'une idéologie qu'on appelle le libéralisme économique, qui plus est quand il est mondialisé. Et en fait, on peut clairement dire que la difficulté qui vient s'ajouter avec le changement climatique, donc et nous, encore une fois, moi et mes collègues paysans, nous sommes aux premières loges de ces difficultés depuis de nombreuses années. Et au sein des CIVAM, on a justement travaillé de façon à pouvoir s'y adapter. Mais il n'empêche que jusque-là, je dois vraiment insister sur cette idée que ce libéralisme économique mondialisé, c'est une idéologie qui est capable de violer les lois de l'agronomie, violer les lois de la physique, et qui met à genoux ma profession dans certaines circonstances. Mmh. Je vais prendre un exemple concret qui est en lien avec la question que vous posez. Je prends le jeu des échanges mondialisés. Les accords de libre-échange impliquent que chaque année, la France et l'Union européenne importent au détriment de production locale des centaines de milliers de tonnes de protéines végétales, et en particulier de protéines de soja qui issus du soja qui sont majoritairement en provenance du Brésil, d'Amérique du Sud en fait en général, mais aussi des États-Unis ou de Russie. Et ces productions importées, elles sont utilisées en grande partie dans l'alimentation des animaux d'élevage. Autrement dit, nous avons une part considérable de notre élevage qui est hors sol. Je laisse vos auditeurs apprécier la dimension dantesque des inconvénients de cette dépendance en cas de tension géopolitique. Alors, une fois que
c'est
ça
déjà
s'est
le
dit,
cas, hein. C'est déjà le cas, voilà, Nicolas. Alors, hein.
On est bien d'accord. Ouais. Et une fois que ça s'est dit, il est possible de faire autrement.
Alors, on fait comment ?
Les CIVAM ont développé, par exemple, des systèmes d'élevage bovin pour la production du lait, qu'on qualifie comme étant économes et autonomes, et c'est-à-dire que les aliments du cheptel de la ferme sont produits sur la ferme. On est bien d'accord que là, on est dans le registre de pratiques qui relèvent du bon sens. D'accord. Et derrière ça, en fait, nous, et c'est d'ailleurs la question qui j'imagine, vient derrière tout la question que vous posez, cela nous amène à se demander quelle politique publique mettre en œuvre pour garantir notre souveraineté alimentaire.
Mais
parce
voilà,
que c'est de cela qu'il s'agit.
Parce que est-ce qu'aujourd'hui, on se sent souverain alimentairement? On a l'impression qu'on est dépendant un peu tout le monde, mais est-ce que ça ne fait pas aussi partie du jeu avec l'Union européenne? On prend les forces en action.
Déjà, positionnons sur l'axe français et avant d'aller jusqu'à l'Union européenne.
Ouais.
Et rappelez-vous, Madame Bannon, rappelez-vous que la France a su mettre en place des politiques publiques ambitieuses de planification, au sens le plus noble du terme. Rappelez-vous que la France est un des pays qui possède le plus de terres arables par habitant. En bref, je dirais que nous disposons de ressources et qu'il ne faut pas les utiliser de n'importe quelle manière, on est bien d'accord, qu'il faut les préserver. Et je terminerai en soulignant un point de vigilance et qu'il ne s'agirait de pas succomber au solutionnisme technologique, au solutionnisme productiviste. En fait, si j'étais sur votre plateau, je me tournerais vers Madame Lambert en disant qu'en France, ce n'est pas le GPS américain qui doit conduire le tracteur, mais bien le paysan et la paysanne française.
Nicolas Versotti, vous bougez pas justement, ne bougez pas parce que Christiane est avec nous. Christiane Lambert, j'aimerais que vous puissiez répondre ici à Nicolas Versotti, en pleine canicule, en pleine sécheresse. Bon, qu'est-ce que vous avez à lui dire ?
J'ai à lui dire que mon exploitation est une exploitation telle qu'il vient de la décrire, c'est-à-dire de polyculture-élevage. Nous avons des hectares de culture, 100 hectares, et nous cultivons des cultures pour nourrir nos animaux, les porcs. Une production fine qui nous permet d'avoir des lisiers, des fumiers, qui nous permettent de fertiliser les sols et donc de ne pas acheter d'engrais chimiques du tout.
Mais vous êtes aussi, Madame Lambert, je me permets d'intervenir avant que vous finissiez.
Oui,
c'est important pour moi de dire que vous êtes présidente de la FNSEA.
Oui.
Donc c'est en ce sens que Nicolas Versotti vous interrogeait. Mais continuez, madame. Allez-y.
Alors, et donc, les exploitations de polyculture-élevage sont la très grande majorité des exploitations d'élevage en France. Nous avons 13 millions d'hectares de prairies, c'est-à-dire la moitié de la surface française est en prairie. les prairies, c'est vertueux, ça fait de la biodiversité, ça capte le carbone. C'est très bon aussi pour retenir l'eau. Donc, bien sûr, là où je rejoins l'agriculteur qui vient de s'exprimer, c'est qu'il faut produire plus de protéines. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment poussé pour qu'il y ait un accompagnement plus important de la culture de protéines, à la fois les protéines pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que moi, je crois beaucoup aux solutions de recherche et d'innovation. Vous voyez, demain dimanche, je vais intervenir devant un congrès où il y aura 2000 chercheurs de la sélection variétale pour tout ce qui est végétal. La vigne, les plantes médicinales, toutes les cultures, bref. Eh bien, c'est grâce à la recherche de ces variétés-là que nous avons déjà pu améliorer l'efficience de nos cultures. Aujourd'hui, on fait des rendements avec 30% d'eau de moins parce que la sélection variétale nous a amené des solutions. Mmh. Parce qu'on est capable de mettre, grâce à la technologie, des sondes capacitives, c'est-à-dire qui mesurent la quantité d'eau dans le sol. On sait à quel moment apporter l'eau et à quel moment il n'y en a pas besoin.
Donc ce que vous voulez dire, Madame Lambert,
présente des avantages.
Voilà, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut utiliser les innovations qu'on a en notre possession pour pouvoir garder cette souveraineté.
Oui, voilà, dans tous les domaines, c'est pareil pour la sobriété énergétique à la maison. La domotique permet aujourd'hui de fermer les volets quand il faut, d'éviter d'acheter de la clim, etc., etc.
Nicolas Verzotti, vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Christiane Lambert ?
En fait, mes propos. Effectivement, l'éclairage de la science aujourd'hui nous rappelle qu'il y a des pratiques, et encore une fois, j'insiste sur les pratiques de bon sens. Et là, ça va vous paraître évident. Moi-même, j'ai une ferme diversifiée en maraîchage, en agroforesterie. Il y a plus d'une dizaine d'années que j'ai associé l'arbre avec les cultures maraîchères parce qu'il fallait, je voyais bien que donc, le climat évoluait, je voyais bien aussi que je pouvais m'appuyer sur de nombreuses ressources, et notamment en travaillant avec les collègues chercheurs de l'INRA. Mm-hmm. Les CIVAM travaillent, ce sont des groupes d'agriculteurs, et on a pour habitude de s'appuyer et d'être acteur des processus de recherche et de développement. Et effectivement, l'agroforesterie est une technique qui a émergé, et notamment en région PACA, grâce aux CIVAM. Et là, en l'occurrence, effectivement, j'allais dire que ce qui se développe de façon empirique vient être renforcé par les constatations et notamment les éclairages scientifiques. Autrement dit, pour revenir sur l'exemple dont je parle, là, l'agroforesterie, moi, en fait, je mise sur la complémentarité entre l'arbre et les autres cultures, et l'arbre, je l'utilise comme un élément, comme abri climatique, en fait. Et il est évident qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je vérifie, notamment dans certaines situations, alors qu'ils sont des conditions extrêmes, celles qu'on traverse là, et encore une fois, même ce type de pratiques ne suffiront certainement pas, mais en tout cas, elles permettent de pouvoir limiter les dégâts. Et là, en l'occurrence, moi, je suis dans une région où il y a plus de 100 jours de mistral par an, un soleil trop, voire très généreux l'été, et des conditions très séchantes de plus en plus chaque année en période estivale. Oui. Et il se trouve que mes cultures apprécient l'ombre des arbres.
Stéphane,
il n'empêche que, sachez qu'il y a des politiques publiques, et notamment la politique agricole commune, qui à une époque encourageait l'arrachage des haies. Et c'est là, en fait, où je diverge certainement du point de vue de Madame Lambert, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il est important d'être très pragmatique et de ne pas s'engouffrer, et c'est ce que j'appelle le solutionnisme technologique. C'est-à-dire que, bien évidemment, que l'éclairage scientifique est important, ce que nous serons d'accord, elle me rejoindra sur cette idée que la sélection variétale, c'est quelque chose de primordial, et notamment pour l'agroforesterie, par exemple, on travaille notamment avec des bureaux d'études sur cette idée de sélectionner des variétés qui vont bien se développer dans ce contexte.
Alors, on va aussi pouvoir en parler avec Stéphane Travers. Bonsoir Stéphane Travers, député Territoire Progrès de la Manche, ancien ministre de l'Agriculture. Stéphane Travers,
bonsoir
à vous. Est-ce qu'on a une politique adaptée à nos besoins ? Est-ce qu'en réalité, les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas en train de payer des années de prix les plus bas, du rendement à tout prix, de faire toujours plus, de cette surconsommation ?
On peut faire un certain nombre de constats. C'est qu'on a aujourd'hui, on connaît des crises successives, la crise porcine, la grippe aviaire, la grêle, le gel, et aujourd'hui la sécheresse que l'on connaît quasiment sur tout le territoire français, qui font que ces crises, elles sont arrivées en un an, alors que d'habitude, elles s'étalaient sur une période de 5 à 10 ans. Mmh. Et donc, c'est comment on répond aujourd'hui à ces crises. Le sujet de votre émission, et je vous remercie de m'avoir invité, c'est est-ce qu'on a un risque de pénurie alimentaire ? Moi, je crois d'abord qu'il faut faire deux préalables qui sont indispensables. C'est le maintien des activités agricoles via la formation, la transmission, l'installation. Nous avons besoin des agriculteurs pour nous nourrir. Ensuite, il faut produire et cultiver. Pas de production, pas d'alimentation, et donc encore une fois, nécessité d'avoir des agriculteurs qui puissent travailler sur notre souveraineté alimentaire. Faire de la pédagogie auprès des consommateurs, autour des produits de saison, autour de nos produits français. Et puis, c'est la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Et nos interlocuteurs l'ont brièvement rappelé tout à l'heure, la reconquête de la souveraineté alimentaire, c'est aussi les protéines, c'est aussi le végétal qui en fait partie. Et elles ont besoin d'eau, notamment dans les périodes de sécheresse que nous connaissons aujourd'hui, parce que la plupart des exploitations agricoles, comme il disait justement Christiane Lambert tout à l'heure, en polyculture élevage, 75 hectares, c'est un peu ce que l'on connaît dans un département comme le mien, eh bien on produit l'alimentation du bétail dans les fermes sur les territoires. Et donc aujourd'hui, nous devons mener des politiques publiques qui tournent vers cette souveraineté alimentaire, parce que nous le savons, demain, l'Europe est un territoire qui produit une agriculture la plus saine au monde, mais aussi la plus durable, et que l'Europe, elle doit être en avance sur la recherche, sur l'innovation, pour éviter justement ces effets que nous connaissons et qui sont liés aux crises climatiques, mais aux crises également sociopolitiques que nous connaissons aujourd'hui.
Stéphane Travers, avant d'aller un peu plus loin sur l'eau, et on va continuer là-dessus, vous parlez à l'instant de cette souveraineté nationale et vous faites un comparatif avec l'Europe. Donc pour vous, la souveraineté nationale, souveraineté alimentaire nationale, elle passe forcément par la souveraineté européenne. C'est ce que vous voulez dire?
Oui. Mais bien sûr, d'abord, nous devons nous-mêmes travailler à notre souveraineté alimentaire, oui. Comment produire mieux, comment produire plus aussi par rapport aux besoins que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons vocation aussi à exporter les denrées que nous produisons, parce que l'agriculture française, elle est un modèle aussi à travers l'Europe et aussi à travers le monde, et puis aussi avoir une logique européenne. D'ailleurs, il y a eu un gros travail de mener par Julien de Normandie à l'époque sur cette souveraineté alimentaire européenne et l'ensemble des organisations agricoles autour de cela pour permettre justement, pour faire cette priorité pour faire en sorte que nous ne puissions pas connaître de pénurie alimentaire et comment mieux résister aux crises, crises climatiques, mais aussi des crises que nous pouvons connaître.
Parce que là, franchement, ça fait peur. Hein. Franck Menonville, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, notamment de la part de Stéphane Travers? Il nous dit, bon, voilà, il faut mettre plein de choses en place pour ne pas connaître de pénurie, mais on a l'impression que ça y est, la machine est lancée, que les pénuries, elles vont être là de toute façon.
Moi, je suis partiellement d'accord. Je pense surtout qu'il faut vraiment, dans notre pays et au niveau européen, réarmer notre agriculture. Parce que je crois que le sentiment général au niveau européen et en particulier au niveau français, c'est qu'il était à peu près certain de ne manquer de rien et que la souveraineté alimentaire était pour nos concitoyens garantie.
On s'est endormi sur nos acquis, c'est ça ?
Ces crises climatiques aujourd'hui nous font repenser les choses et je pense qu'il faut vraiment au niveau européen une politique renouvelée et beaucoup plus ambitieuse qu'elle ne l'a été ces dernières années. Et je crois aussi qu'il faut sortir d'un certain nombre d'injonctions contradictoires de nos politiques publiques.
C'est quoi, quand vous dites ça, c'est aussi... quoi les injonctions contradictoires, Franck Menonville? Un exemple très concret.
Par exemple, heureusement, ça a été retiré partiellement pour l'année prochaine, mais c'est les 4% de jachère, alors même qu'on a un besoin croissant de production. Au niveau européen, on impose à nos agriculteurs de faire 4% de jachère. Je pense que ça n'a aucun sens en matière de biodiversité, ça n'a aucun sens en matière de souveraineté alimentaire. Et c'est vraiment la stratégie de la fourche et la fourchette, par exemple. Il y a des éléments, bien évidemment, on doit produire mieux, on doit aller vers une agriculture
vertueuse,
plus sobre, plus... en matière énergétique, mais on ne doit pas, en tout cas, on ne doit pas désarmer la production comme c'est le cas. Je rappelle quand même qu'il y a un rapport du Sénat auquel j'ai participé avec Laurent Duplomb en 2018, dépeignant le risque d'une dégradation et même d'un déséquilibre au niveau de notre pays, de la balance commerciale agricole. Moi, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui prendre conscience que qu'il faut tout mobiliser, rien opposer. Je pense que
alors,
il faut du bon sens, comme a dit le premier
Franck
intervenant.
Minouville.
Il faut
oui.
aussi des technologies nouvelles et repensées et des politiques publiques adaptées.
Oui, adaptées aux besoins, on l'a compris. Est-ce qu'il faut repenser notre politique sur l'eau? Et là, Christiane Lambert, je vous pose vraiment directement cette question. Vous êtes sur le terrain. La politique de l'eau a-t-elle encore aujourd'hui, est-elle plutôt encore aujourd'hui dans la bonne direction? Ou est-ce qu'il faut pas se dire que là, on a fait fausse route, qu'il faut tout repenser de A à Z et qu'il en va à la fois de notre survie en tant qu'individu et de la survie aussi alimentaire de notre pays?
Avec le réchauffement climatique, plus personne ne conteste, la question de l'eau se pose de façon très importante et il faut sortir des tabous. Mais la France a pris du retard. Alors que dans l'Union européenne, le stockage de l'eau a augmenté de 13% dans l'ensemble des pays européens, en France, nous n'avons augmenté nos réserves d'eau que de 1,3%. Donc nous sommes en retard et nous prenons du retard. On est sur des réserves d'eau aujourd'hui où on parle d'eau partagée. La priorité, c'est bien sûr l'eau potable.
Oui.
La deuxième priorité, c'est l'eau économique et la préservation des milieux, à égalité d'importance. C'est important de préserver les milieux, les niveaux d'étiage, mais aussi lutter contre les inondations en stockant l'eau quand il y a des pluies diluviennes. On peut réalimenter ensuite et les rivières, avoir des bons niveaux d'étiage qui évitent que tous les poissons meurent et permettent de continuer à arroser l'arboriculture, le maraîchage, l'horticulture, toutes ces cultures qui ne peuvent pas se passer un seul jour d'eau. J'entends aujourd'hui des gens dire on peut produire sans eau. Non, aucune plante, même si on fait de l'agroforesterie et tout ce qu'on veut de vertueux, il faut quand même de l'eau pour produire. Alors, il y a eu l'année dernière un très, très gros travail qui a été engagé, qui s'appelle le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Trois sujets: améliorer les dispositifs de gestion des risques climatiques pour donner plus de résistance et de résilience aux exploitations, avoir des systèmes d'assurance, mais aussi la solidarité nationale quand il y a des crises graves comme celle de cette année. Deuxième groupe, tout ce qui est adaptation et atténuation, quelles pratiques agricoles, celles de la technologie, celle de l'innovation, mais aussi celles qui viennent de la nature, dont certaines ont été citées tout à l'heure. Et puis, troisième volet, c'est justement le stockage d'eau et la gestion hydrologique. Combien de fois avons-nous vu des inondations diluviennes avec des cours d'eau insuffisamment entretenus? On a voulu rendre les fleuves comme avant, la nature naturelle. On voit qu'on a aujourd'hui parfois des manques de barrages. On a supprimé un certain nombre de barrages aussi qui permettaient de faire des retenues. Vous savez, moi, j'ai dans mon département du Maine-et-Loire une réserve d'eau qui a été faite par Edgar Pisani dans les années 60. Dans les années 60, une réserve de 4,5 millions de mètres cubes d'eau. C'est elle qui permet aujourd'hui à 50 agriculteurs d'avoir
on entend,
aucune restriction.
Christiane Lambert, on entend, on entend, on entend. Mais
savez-vous quand même,
Christiane Lambert, il va falloir faire tourner la parole. D'eau. Vous savez, c'est un débat. Au bout d'un moment, il faut faire tourner la parole. Non, vraiment, Christiane Lambert. Christiane Lambert, vraiment, il faut faire tourner la parole. Stéphane Travers, quand vous entendez Christiane Lambert dire qu'aujourd'hui, il y a des tabous sur l'eau, est-ce que vous partagez ce qu'elle dit à l'instant? Parce que là, elle nous a énuméré plein de choses, on peut le comprendre, hein. Vraisemblablement des éléments de langage aussi. Il y a des gens qui nous écoutent au moment où on se parle, donc on va aller droit au but sur les questions. Y a-t-il des tabous aujourd'hui autour de l'eau?
Mais ce ne sont pas des éléments de langage, c'est la réalité que vivent les agriculteurs. Aujourd'hui, on a besoin de stocker de l'eau et d'aller plus vite. On a fait les assises de l'eau en 2018.
Non, c'est pas ce sur quoi je vous interroge, en fait. Est-ce qu'il y a des tabous autour de l'eau? Quels sont les tabous?
Il y a eu un certain nombre d'actes politiques ont été posés, les assises de l'eau, le Varenne de l'eau, et à la rentrée septembre, le ministre recevra les agences de l'eau qui vont prendre des mesures d'urgence, justement,
d'accord,
pour lutter contre la sécheresse. Mais aujourd'hui, le stockage d'eau agricole, c'est une nécessité pour notre souveraineté alimentaire. Et c'est une contribution à l'intérêt général, parce que sans eau, il n'y a rien qui pousse. Donc notre alimentation, elle a besoin d'eau. Donc nous avons besoin de stocker d'eau, récolter les eaux de pluie, récolter les eaux des orages et être beaucoup plus efficace que nous ne l'avons été sur les mesures à prendre pour pouvoir stocker l'eau. Parce qu'aujourd'hui, cela fait débat dans le pays. On a pu assister dernièrement à des dégradations aussi de sites, et moi je les condamne sévèrement, des dégradations de sites de stockage d'eau. Cette eau, elle est nécessaire. Et on sait bien qu'aujourd'hui, l'eau est une question cruciale pour notre agriculture. L'eau est un bien commun, et aujourd'hui, les agriculteurs, ils, savent la gérer qualitativement, mais aussi quantitativement pour pouvoir l'utiliser pour leurs travaux et irriguer nos cultures.
Stéphane Travers, vous êtes député, ça veut dire que vous êtes à l'Assemblée nationale, ça veut dire que les lois, vous les votez. Est-ce que vous allez arriver à la rentrée avec un plan, notamment sur l'agriculture et sur l'eau, en disant, écoutez, là, on va droit dans le mur, on ne peut plus faire autrement, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous allez amener un projet de loi comme ça, notamment sur l'eau ?
Alors le projet de loi, c'est le ministre qui les porte et je sais que la loi d'orientation pourra nous permettre de travailler sur ces éléments-là. Ils sont indispensables. À la rentrée, nous allons travailler sur le budget. C'est le projet de loi de finances et j'ai été chargé de travailler et d'être le rapporteur du budget de l'agriculture pour la commission des affaires économiques. Mmh. Et je travaillerai également sur la question du remplacement, des services de remplacement parce que nous le savons, nous avons une grande partie de nos agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici quelques années et pour continuer à produire une alimentation de qualité, nous avons besoin de former une nouvelle génération d'agriculteurs et nous avons besoin d'agriculteurs qui puissent continuer à produire l'alimentation dont nous avons besoin pour éviter les pénuries dont vous avez fait état.
Nicolas Versotti...
Non, écoutez, Madame Manon, oui.
Baron, mais allez-y, je vous en prie. Nicolas Versotti, j'allais vous poser la question. Juste une question. Avant que vous puissiez, s'il vous plaît, Nicolas, apporter une précision, une question. Comment est-ce qu'on encourage les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui avec toutes ces contraintes à devenir agriculteurs? Vous êtes agriculteur. Il faut, a dit Stéphane Travers, encourager ces agriculteurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à la retraite. Comment on fait concrètement?
Alors, première chose, en fait, il faut organiser et réunir tous les ingrédients nécessaires pour que le fruit de leur travail soit correctement rémunéré et valorisé. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple du marché du fruit et légumes, où c'est une foire d'empoigne. En fait, nous, du point de vue des SIVA, mais on travaille avec notamment des sociologues et des géographes sur ces questions-là, qui viennent éclairer ce que nous on constate en fait dans notre quotidien. Sans marché régulé, c'est la foire d'empoigne et on en arrive avec des situations apocalyptiques. Donc là, il faut vraiment que nos politiques aient une ambition, et en tout cas soient ambitieux et réunissent les ingrédients nécessaires pour qu'un jeune qui veuille s'installer ait derrière et devant lui en fait toutes les conditions de réussite. Et pour ce faire, il faut que le fruit de son travail soit correctement rémunéré.
C'est ça.
Il faut savoir,
c'est une vraie question.
En fait, la construction du prix est assez compliquée. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est confronté à des distorsions de concurrence avec des marchés parfois mondialisés, même sur le fruit et légumes. Hein, et c'est assez effarant. Et ce qui veut dire que, ce qu'on observe, c'est que ça sera l'avantage de tout le monde. C'est-à-dire que nos concitoyens auront tout intérêt à ce qu'il y ait des garanties qui soient données, mais pas de n'importe quelle manière, aux producteurs, aux paysans, de façon à ce qu'eux, ils aient des garanties sur la qualité de cette alimentation et sur son origine. Voilà. Donc là, encore une fois, faciliter l'installation, c'est donner des garanties de rémunération et de conditions de vie aux futurs agriculteurs. Et là, il y a du pain sur la planche, il faut s'y mettre tout de suite. Je voulais apporter une précision concernant l'eau. Effectivement, là on est bien d'accord, quel que soit le système de culture, pour que ça pousse, il faut de l'eau et de l'air.
Oui.
Et la stratégie de stockage est importante. Alors là, nous, au sein des CIVAM, on s'appuie sur notamment les éclairages de Emma Aziza, qui est une hydrologue, Magali Reghezza, qui est une géographe qui travaille aussi sur la gestion des risques et notamment l'adaptation au changement climatique. Et M. Bernard Baraquet, qui est un chercheur du CNRS, et qui, eux, ont éclairage assez pertinent en disant, attention, stocker de l'eau, certes, mais pas de n'importe quelle manière. Et c'est là où ils insistent sur l'idée que le stockage d'eau en surface doit être remplacé par un stockage d'eau dans les sols. Donc des pratiques qui facilitent ça. Et autre chose aussi, je pense qu'il faut avoir un débat, et là, il faut questionner la profession sur savoir, et nous, au sein des CIVAM, on le fait en étant tout à fait détendu, parce qu'on discute avec tout le monde, qu'est-ce qu'on veut arroser? Et surtout, qu'est-ce qu'on va irriguer? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, il devient pertinent de développer, par exemple, l'irrigation dans certaines zones, pour certaines cultures, plutôt au détriment d'autres? Bref, tout ça, je pense qu'il faut être responsable et bien poser les dimensions de chaque problématique. Parce que la ressource hydrique va se raréfier. On voit bien que quand elle est rare, ça complique les choses. Je peux vous dire que sur le terrain, on voit tout de suite les tensions qui naissent à travers ça. Et notamment au sein de la profession. Et donc là, je pense que c'est important d'être responsable et de bien peser à chaque fois les solutions qu'on avance, notamment pour avoir des perspectives de long terme.
Franck Ménonville, on est sur la dernière minute de cette émission. Comment est-ce qu'on va pouvoir appréhender les mois qui nous attendent? Surtout, est-ce qu'on va être forcé et contraint avec ces pénuries qui, de toute façon, sont là? Comment est-ce qu'on s'organise ?
Écoutez, en matière de pénurie aujourd'hui, c'est très difficile de dire à quel niveau nous nous situons. C'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on observe surtout, c'est une flambée ces derniers mois d'un certain nombre de matières premières, de cours liés aussi à des problèmes à la fois de tension en matière de volume, mais aussi de tension logistique, etc. Mm-hmm. Et ce qu'il faut surtout, c'est vraiment accompagner aussi les filières les plus fragiles. Et c'est vrai que c'est le cas notamment dans mon département. Si on conjugue les enjeux de climatiques et les enjeux de coûts alimentaires, l'élevage, bien évidemment, aujourd'hui est en première ligne des filières fragiles et fragilisées.
On va devoir.
Voilà, moi je voudrais seulement
clore. On va devoir clore, mais un dernier mot, oui. Très rapidement, parce qu'on doit clore cette émission. Dites-nous très vite. Franck Menonville, bon, on vous a perdu,
oui,
on va remercier.
Voilà, non, mais on évoquait les fruits et légumes tout à l'heure. Je rappelle que dans notre pays, quand même, on a aujourd'hui à peu près 50% de produits de fruits et légumes consommés qui sont issus de produits d'importation. Donc on a vraiment un gros travail à faire de structuration de filières et de réarmer nos capacités productives. Il y a un rapport qui va sortir au mois de septembre sur la compétitivité de la ferme de France au niveau du Sénat. Je pense qu'il faudra vraiment
regarder cela de près. Merci beaucoup à vous tous. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Franck Menonville, sénateur UDI de la Meuse, Stéphane Travers, député Territoire Progrès de la Manche, et Nicolas Verzotti, paysan administrateur du réseau SIVAM. Allez, on va faire un tour cette fois du côté du sport, parce que oui, c'est la Ligue 1. Virginie Fulpin, quel est le programme de ce soir? Virginie Fulpin, est-ce que vous êtes avec nous?
C'est le champion qui reçoit PSG Montpellier au Parc des Princes. Ce sera à vivre en intégralité dans Europe 1 Sport à partir de 21h.
Merci beaucoup Virginie, on vous retrouvera après le journal de 20h.